ici cet écrit. Et cependant, il y a dans le cœur ou derrière lui une lumière mystique plus profonde. Quelle est cette lumière mystique?
C'est le mot.
Mais après ça, c'est écrit qui, tout en n'étant pas ce que nous appelons l'intuition. Quelle relation ça a avec l'intuition?
Non, c'est la lumière, c'est la connaissance par l'amour, c'est la lumière par l'amour, la compréhension par l'amour. Et il dit que ce n'est pas l'intuition, parce que l'intuition, ça appartient à l'intellect, dans son expression en tout cas. L'expression de l'intuition est intellectuelle. Tandis que ça, c'est par une sorte de connaissance directe et presque par identité, n'est-ce pas, qui provient de l'amour.
Mais qu'est-ce que c'est l'oracle intérieur?
Hein?
L'oracle intérieur.
Le?
L'oracle.
L'oracle, c'est le pouvoir de divination, de prévision, de compréhension des symboles. Et ça, c'est dans l'être psychique. Les prophètes, par exemple, ce n'est pas par leur mental qu'ils prophétisent, c'est par un contact direct par-delà les émotions et les sentiments. On dit même que les Védas, par exemple, n'étaient pas écrits avec le mental et par la tête. C'est ça, c'est la forme de l'hymne ou de jaillissait spontanément de l'être psychique avec les mots.
Alors si quelqu'un le contact psychique, est-ce que ça veut dire qu'il a ce pouvoir?
Parce que plus ou moins, oui, plus ou moins. Plus le contact est parfait, plus le pouvoir est grand. Ça dépend aussi des possibilités extérieures de l'être. Mais je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Je vous ai déjà dit que quand on entre en contact avec son psychique, dont il parle là, eh bien, il y a des facultés qui se développe spontanément. Et par exemple, il y a des gens qui n'ont aucune éducation intellectuelle et qui tout d'un coup ont un pouvoir d'expression tout à fait remarquable et qui vient comme ça, spontanément, par le contact intérieur avec l'être psychique.
Qu'est-ce que c'est réfrigération laïque?
Hein?
Réfrigération laïque.
Quoi?
Réfrigération laïque.
Réfrigération?
Laïque.
Laïque. Oh, laïque. Laïque. Laïque, c'est par opposition à religieux. On dit les religieux et les laïcs. Les laïcs, ce sont ceux qui ne sont pas des religieux. Réfrigération, ça veut dire quelque chose qui gel qui refroidit et congèle les émotions, qui enlève toute la chaleur de l'âme et de la ferveur religieuse. Alors, c'est la pensée matérialiste et purement physique qui enlève toute la chaleur, toute la ferveur, toute l'ardeur des sentiments et de la conscience religieuse, qui vous rend froidement raisonnable. C'est tout.
Merci. Le feu peut servir à une connaissance plus directe. Alors, quel est le rôle de l'intellect comme intermédiaire de la connaissance?
Comme intermédiaire, tu dis, à quel point de vue? Parce que le vrai rôle mental, c'est la formation et la création de l'action. Organisation, formation et organisation de l'action. Le mental a un pouvoir formateur et organisateur, et c'est lui qui met les différents éléments de l'inspiration en ordre pour l'action, pour organiser l'action. Et s'il se tenait uniquement à ce rôle-là, qu'il reçoive les inspirations ou d'en haut ou de ce centre mystique de l'âme, qu'il reçoive, et qu'il simplement formule le plan de l'action, même dans les grandes lignes ou dans les petits détails, pour les toutes petites choses de la vie ou pour les grandes organisations terrestres, alors il remplirait pleinement sa fonction. Ce n'est pas un outil de connaissance. Mais il peut utiliser la connaissance dans l'action, pour organiser l'action. C'est un outil d'organisation et de formation très puissant et très capable quand il est bien développé. On peut très bien sentir ça quand on veut justement organiser sa vie, par exemple. Mettre les différentes choses en place dans son existence, eh bien, il y a une certaine faculté intellectuelle qui a immédiatement met chaque chose à sa place et fait un plan et organise. Et ce n'est pas une connaissance qui vient du mental, c'est une connaissance qui vient, comme je dis, ou des profondeurs mystiques de l'âme, ou d'une conscience supérieure, et que ça le concentre dans le monde physique et ça l'organise pour donner une base d'action. On a cette expérience très bien quand on veut organiser sa vie. Et puis, il y a une autre utilité, alors, quand on est en contact avec sa raison, l'action, n'est-ce pas, le centre raisonnable de l'intellect, la raison pure, c'est un contrôle puissant pour toutes les impulsions vitales. Tout ce qui vient du monde vital peut être très sûrement contrôlé par ça. Mais ça doit être au service de quelque chose d'autre. Pas se satisfaire en soi-même. Ce sont les deux choses. C'est une force de contrôle et c'est un outil de contrôle. Et c'est une puissance d'organisation. Ça, c'est sa vraie place.
Par l'amour seul, on peut réaliser le
divin. Peut réaliser quoi?
Le divin.
Oh, certainement. C'est même le chemin le plus direct. On peut réaliser le divin, c'est-à-dire s'identifier au divin, prendre pleinement conscience du divin et être un instrument pour le divin. Mais naturellement, on ne réalise pas le yoga intégral, puisque c'est seulement sur une ligne. Mais au point de vue d'identification avec le divin, c'est même le chemin le plus direct.
Mais sans le développement mental, on ne pourra pas exprimer.
On ne peut pas exprimer intellectuellement, mais on peut exprimer dans l'action, on peut exprimer dans les sentiments, on peut exprimer dans la vie.
Quelquefois, quand on a une dépression, cela dure pour assez longtemps. Mais si on a une joie qui n'est pas ordinaire, ça ne dure pas.
Oui, c'est très vrai.
Alors, comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça...
Mais ce n'est pas la même partie de l'être qui a la dépression et qui a la joie. Si tu parles d'un plaisir, le plaisir qui appartient au vital est une chose très fugitive, et je pense que dans la vie telle qu'elle est maintenant, il n'y a plus d'occasion d'avoir de déplaisir que de plaisir. Le plaisir en lui-même est une chose extrêmement fugitive, parce que si on continue la même vibration de plaisir un peu longtemps, elle devient ou déplaisante ou même repoussante. Exactement la même vibration. Le plaisir en lui-même est une chose très fugitive. Mais si tu parles de la joie, ce qui est une chose tout à fait différente, qui est une sorte de chaleur et d'illumination dans le cœur, on peut avoir la joie aussi dans la tête, mais c'est une sorte de chaleur et d'illumination béatifique qui se produit quelque part. Ça, c'est une vertu qui n'est pas encore à l'état de plein développement, et on est rarement dans la condition psychologique nécessaire pour l'avoir, et c'est pour ça que c'est fugitif. Autrement, la joie est présente d'une façon constante dans la vérité de l'être, dans la réalité de l'être, dans ton vrai moi, dans ton âme, dans ton être psychique. La joie est constamment présente. Ça n'a rien à faire avec le plaisir. C'est une sorte de félicité intérieure. Mais ça, on est rarement dans l'état de le sentir, à moins qu'on ait pris pleinement conscience de son être psychique. C'est pour ça que quand ça vient, c'est fugitif, parce que la condition nécessaire à le percevoir n'est pas souvent présente. Tandis qu'on est d'une façon presque constante, dans un état vital ordinaire où le moindre chose déplaisante vous amène très spontanément et facilement la dépression. Tout désir qui n'est pas satisfait, toute impulsion qui rencontre des obstacles, tout contact avec le dehors qui est désagréable, très facilement et très spontanément crée une dépression. Parce que c'est l'état normal des choses, normal dans la vie présente. Tandis que la joie est un état exceptionnel. Et alors, le plaisir qui est une sensation agréable, simplement, comme je dis, il faut que ça... Si ça dure, non seulement ça s'émousse, mais ça finit par être désagréable. On ne peut pas le supporter longtemps. Alors tout naturellement, ça va et ça vient aussi. C'est-à-dire que la même chose qui vous donne du plaisir, exactement la même vibration, après un court moment, ça ne vous en donne plus. Et si ça persiste, ça vous devient désagréable. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir du plaisir pendant longtemps. La seule chose qui peut être durable, c'est la joie, si on entre en contact avec la vérité de l'être qui contient cette joie d'une façon permanente.
Dans le corps, c'est double action. L'action de l'impulsion vitale et de l'émotion pure. Comment est-ce que le mélange, qu'est-ce qu'il y a qui rend ce mélange possible? Qu'est-ce qui rend possible le mélange de l'émotion pure et de l'impulsion vitale?
Comment se produit le mélange?
Mais parce que toutes les deux ont le siège dans le corps, non?
Pas au même endroit. C'est pas notre cœur physique, n'est-ce pas? C'est le centre. C'est ce centre-là. Mais il y a des profondeurs diverses. plus tu vas à la surface, plus ça se mélange naturellement d'impulsions vitales et même de réactions purement physiques, de sensations purement physiques. Plus tu vas profondément, moins il y a de mélange. Et si tu vas assez profondément, tu trouves le sentiment tout à fait pur derrière. C'est une question de... On sent comme ça, n'est-ce pas, qu'on va... On est précipité au dehors tout le temps. Tout le temps, on vit comme presque en dehors de soi. Dans une sensation tellement superficielle que c'est presque comme si on était en dehors de soi. Dès qu'on veut même s'observer un peu, se contrôler un peu, se connaître ce qui se passe simplement, on est toujours obligé de reculer ou de tirer vers soi, de tirer au-dedans quelque chose qui est constamment comme ça à la surface. C'est ça, cette chose de surface qui rencontre tous les contacts extérieurs, qui vous met en rapport avec une vibration similaire provenant des eaux. Ça se produit presque en dehors de vous. C'est ça l'éparpillement de la conscience ordinaire, constant. Par exemple, un mouvement, une inspiration qui provient des profondeurs psychiques de l'être. Parce qu'il y en a, même chez ceux qui ne sont pas conscients de leur psychique, bien une sorte d'inspiration qui vient des profondeurs. Et elle est obligée, pour se faire percevoir, de venir à la surface. Et à mesure qu'elle vient à la surface, elle se mélange à toutes sortes de choses qui n'ont rien à faire avec elle, mais qui veulent se servir d'elle, comme par exemple tous les désirs et toutes les passions du vital, qui dès qu'il y a une force profonde qui remonte à la surface, s'en saisissent pour leur propre satisfaction. Ou bien les gens qui vivent dans le mental et qui veulent comprendre leur expérience et l'apprécier, la juger, tout ça. Alors, c'est le mental qui se saisit de cette inspiration ou de cette force qui monte à la surface. Le mental s'en saisit pour son propre bénéfice, pour sa propre satisfaction. Et ça se mélange, ça gâte tout. Et c'est constamment comme ça. Constamment, il y a les mouvements de surface qui s'introduisent dans l'inspiration profonde et qui la déforment, la voilent, la salissent, l'abîment complètement. La déforment hors de récognition.
Pourquoi est-ce que ces impulsions extérieures, quand elles viennent en contact avec l'inspiration qui monte de dedans, au lieu de se transformer, ça
Pardon, c'est un mouvement réciproque. Et ça dépend du dosage. Ça, ça, ça agit nécessairement. L'inspiration du dedans agit nécessairement. Ce n'est pas que c'est complètement absorbé et détruit, c'est pas ça. Ça agit nécessairement, mais ça se mélange, ça perd sa pureté et, la puissance originelle. Mais il y a tout de même quelque chose. Et le dosage dépend, n'est-ce pas? Le résultat dépend du dosage des deux. Il y a un moment quand on fait appel volontairement à l'inspiration profonde et qu'on se soumet à elle. Eh bien, il y a un moment où elle peut passer presque complètement pure et vous faire agir selon la volonté divine. Ce n'est pas inévitable. C'est seulement ce qui se passe d'habitude. Et la proportion est très différente suivant les individus. Il y en a quand le psychique au-dedans prend une décision et envoie une force, c'est tout à fait visible. C'est visiblement une inspiration psychique. On peut voir quelquefois comme une ombre passée par provenant du mental ou du vital, mais ce sont des choses sans importance qui n'arrivent pas du tout à changer la nature de l'inspiration psychique profonde. Toutes ces choses ne sont pas irrémédiables. Autrement, il n'y aurait aucun espoir de progrès. Je ne sais pas. Sortez-en une. Pavitra a apporté des questions qui ne proviennent pas de lui. Il n'est que la bouche qui parle. Pas celle que je vous ai donnée, les autres, ce serait peut-être plus intéressant, non?
Il est dit, suivez votre âme, et non pas votre mental qui saute sur les apparences. Comment pratiquer cela dans la vie de tous les jours?
Quoi?
Il est dit, suivez votre âme.
Suivez votre âme.
Oui, suivez votre âme, et non pas votre mental qui saute sur les apparences,
Oui.
Comment pratiquer cela dans la vie quotidienne?
Pourquoi? Quel est le problème?
Comment mettre en pratique cet avis, ce conseil de suivre son âme et non pas son mental?
Ça, c'est une question purement individuelle. On vous a donné des explications, ça? Non. La première condition, c'est de recevoir des inspirations de l'âme, justement ce dont nous parlions tout à l'heure. Parce que si on n'en reçoit pas, comment est-ce qu'on peut suivre son âme? Première condition, c'est d'être un peu consciente de son âme et de recevoir des inspirations d'elle. Alors naturellement, il va de soi qu'il faut obéir à ça au lieu d'obéir à l'intellect raisonneur. Mais comment le faire, par quel procédé, c'est une chose purement personnelle. Chacun doit trouver son procédé propre. Le principe est là. Alors pour l'appliquer, c'est pour chacun ça. Le procédé est différent. Tout dépend de la mesure dans laquelle on est conscient des inspirations de l'âme, du degré d'identité que l'on a avec elle. Alors on ne peut pas donner un remède pour tout le monde. C'est tout.
Il est dit, plus vous donnez, plus vous recevez. Est-ce que ça s'applique à l'énergie physique? Est-ce que l'on doit entreprendre un travail physique qui semble au-dessus de sa capacité? Et quelle doit être l'attitude pendant que l'on fait un tel travail?
C'est un esprit bien confus qui a posé cette question. Si on ne dépensait pas, on ne recevrait jamais. Et la grande force de l'enfant pour guérir, pour croître, pour se développer, c'est qu'il dépense sans compter. Naturellement, quand on dépense, il faut récupérer. Et il faut prendre le temps nécessaire pour récupérer. Mais ce qu'un enfant ne peut pas faire un jour, il peut le faire le lendemain. Alors, si vous ne dépassez jamais la limite à laquelle vous êtes, vous ne progresserez jamais. Et il est de toute évidence que les gens qui font par exemple, de la culture physique, c'est justement parce que progressivement, ils dépassent, ils vont au-delà de ce qu'ils pouvaient faire, qu'ils font un progrès. Le tout est une question de mesure. Et il faut mesurer la période de réceptivité en proportion de la période de dépense. Mais si on s'en tient à ce que l'on peut faire à un moment donné, d'abord c'est impossible. Si on ne progresse pas, on recule. Par conséquent, il faut toujours faire un petit effort nécessaire pour faire plus qu'on ne fait. Alors on est sur la voie ascendante. Si on a la crainte de faire trop, on est sûr de redescendre et de perdre ses capacités. Il faut toujours essayer de faire un peu plus, un peu mieux qu'on ne faisait le jour précédent ou la minute précédente. Seulement, plus on augmente son effort, plus il faut augmenter sa capacité de réception et son occasion de réception. Par exemple, au point de vue purement physique, si on veut développer ses muscles, eh bien, il faut leur faire faire un effort progressif, c'est-à-dire de plus en plus grand, mais il faut en même temps faire le nécessaire massage, hydrothérapie, etc., etc., pour lui augmenter en même temps sa capacité de réception. Et repos, au repos qui n'est pas un anéantissement dans l'inconscient qui généralement vous fatigue plus que ça ne vous repose, mais un repos conscient, une concentration dans laquelle on s'ouvre et on absorbe les forces qui viennent de les forces universelles. Il est même prouvé que les limites de possibilité du corps sont tellement élastiques que les gens qui font de l'entraînement méthodique et scientifique, raisonnable, raisonné, ils arrivent à des résultats absolument stupéfiants. Ils demandent à leur corps de faire des choses que, naturellement, sans entraînement, il serait tout à fait impossible de faire. Et certainement, ils doivent progressivement dépasser ce qu'ils pouvaient faire, non seulement au point de vue de la perfection, mais aussi au point de vue de la puissance. S'ils ont cette crainte de faire plus qu'ils ne peuvent, de dépasser, ils ne progresseront jamais. Seulement, il faut en même temps faire le nécessaire pour récupérer. C'est tout le principe de la culture physique. Et on voit des choses qui, pour l'homme ignorant et inculte, sont absolument miraculeuses, faites par des corps qui ont été entraînés méthodiquement. Il y en a encore.
Pour se souvenir constamment de la mère, comment le faire? Est-ce qu'il faut répéter son nom, se souvenir de la forme physique, ou penser, ou sentir quel est le divin? Est-ce que la gratitude pour le divin est une forme de souvenir?
Tout ça est bon et beaucoup d'autres choses sont bonnes et ça dépend de ce que chacun peut faire. C'est une question un peu trop personnelle, non? Ça dépend de chacun, c'est la même chose, c'est tout. Bon. Si on veut dire des généralités, ça n'a plus de sens. Pour se souvenir, il ne faut pas oublier. Il y en a encore comme ça. Bon, il y a des tas de petits papiers.
Est-ce qu'il peut y avoir une forme collective de discipline que l'on s'impose soi-même?
Attendez, répétez-moi ça. Une forme collective personnelle.
Self-impose.
Hein?
Self-impose. Que l'on s'impose soi-même. Évidemment, ça doit être le groupe qui s'impose cette discipline à lui-même.
Oh.
Du moins. Est-ce qu'il peut y avoir une forme collective d'une discipline qui imposée par soi-même?
S'imposer à soi-même, par le groupe ou par l'individu?
Self-imposed.
Mais ça arrive très souvent. Que des gens se groupent et qu'ils se donnent des règles, c'est ça, c'est une discipline qui s'impose à eux-mêmes. C'est un fait constant. Toutes les sociétés secrètes ou non, et toutes les groupes initiatiques et tout ça, c'est toujours des choses comme ça. Ils font des règles qui s'imposent, qu'ils les suivent très strictement, généralement. Et il y a même des sanctions terribles, des conséquences tout à fait désastreuses quand, après avoir prêté serment, on veut sortir de la discipline. Ça, c'est une chose qui est faite constamment dans le monde. On pourrait discuter de l'efficacité, ça serait autre chose. Mais en tout cas, ça, ce n'est pas si on peut le faire, ça se fait. C'est une chose qui a été faite depuis les âges les plus anciens. Toujours l'homme a essayé de se grouper d'une façon ou d'une autre et de s'imposer les lois à ce groupe. Mais si c'est un groupement mystique, ce sont des lois mystiques.
Alors peut-être est-ce imposé alors par ceux qui veulent entrer dans le groupe, ce n'est pas ça qui impose.
Hein?
Est-ce que c'est self-impose?
Mais on entre librement dans le groupe, par conséquent on l'accepte. Généralement, dans ces groupes-là, la première chose qu'on fait, c'est de vous dire, voilà, les lois, les règles du groupement, est-ce que vous les acceptez ou non? Si vous ne les acceptez pas, vous n'entrez pas. Si vous les acceptez, c'est vous-même qui vous les imposez. On ne vous met pas de force dans un groupe comme ça. Ce n'est pas comme de subir... par exemple, l'atavisme d'une famille où vous êtes né, ça c'est imposé du dehors. Vous êtes né dans une famille et vous subissez l'atavisme et les lois d'un atavisme rigoureux de la famille qui est imposé du dehors. Parce que à peu près d'une façon universelle, la permission de celui qui est amené dans le monde ou l'acceptation n'est jamais demandée. On vous fait venir par force, on vous impose le milieu par force, les lois de l'atavisme du milieu par force, et puis, enfin, vous en faites ce que vous pouvez, le mieux que vous pouvez, espérons-le. Mais quand c'est un groupement d'amis ou de sociétés, à moins que vous n'ayez pas de volonté personnelle et que vous soyez entraîné par quelqu'un d'autre auquel vous obéissez. Autrement, c'est vous-même qui décidez si vous acceptez ces lois ou pas. Il est évident, la question devient un petit peu plus subtile quand il est question de... quand il s'agit de religion, parce que ça fait partie de l'imposition sur l'enfant avant qu'il soit né. Il est né dans une religion, bien cette religion lui est imposée. Évidemment, selon les règles vraies, il y a un âge où on vous fait, censément, on vous instruit dans la religion dans laquelle vous êtes né, et vous, à ce moment-là, vous choisissez d'y être ou de ne pas y être. Mais il n'y a pas très peu de gens qui ont la capacité de choix individuel. C'est l'habitude de la famille ou du milieu dans lequel ils vivent, ils la suivent aveuglément parce que c'est plus commode que de réagir. Par conséquent, là, dans la religion, il y a beaucoup de cette... on est là, et c'est presque par force qu'on suit cette religion. Il faut avoir une puissance de caractère et d'indépendance de caractère assez considérable pour en sortir, parce que généralement, il faut en sortir avec éclat, et ça a des répercussions sérieuses sur votre existence. Je crois que ça suffit, non ?